dans ce temps de jeûne et prière, donc la semaine passée, on a vécu un bon temps et on a vu des choses se passer. On a compris certaines choses qu'il fallait qu'on fasse dans cette année 2026. Plusieurs personnes ont partagé justement l'importance de prier pour le Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on devait briller? Donc, on va continuer un peu de réfléchir, de voir ce que le Seigneur veut nous dire aussi. Comment briller en tant qu'Église, en tant que personne? Nous croyons que le Seigneur est en train de nous diriger dans une direction et maintenant, il faut après agir. Et on va voir comment que le Saint-Esprit va nous aider dans cette tâche. Donc, si on regarde chaque année, normalement, on doit faire un bilan de santé, on va chez le médecin pour voir un peu nos défis de santé, voir s'il y a quelque chose, tout fonctionne bien dans notre corps, si on doit soigner certaines maladies ou certaines choses. La même chose aussi pour l'Église, on doit faire aussi un état des lieux, un bilan de santé de comment va l'Église, l'Église en général, mais aussi notre propre Église aussi locale, de voir si nous sommes toujours dans la direction que Dieu veut, dans sa volonté. Et ce matin, j'aimerais me poser qu'on se pose la question, qu'est-ce qui manque à notre Église Carrefour de Saint-Henri? On a entendu certaines choses partagées tout à l'heure, le frère parfait par Ghislain. Qu'est-ce qui manque à notre Église? On a pu voir le constat, donc on a vu l'année passée que le nombre de personnes le dimanche diminue. On a vu aussi que les offrandes aussi diminuent. On a regardé aussi en tant que conseil officiel, réfléchi, trouvé, proposé des idées, proposé des pistes. Et je crois que dans ce temps de jeûne et de prière, on a vu aussi l'importance de briller pour la lumière de Dieu. Donc on voit le constat, on voit un peu l'état de santé. On voit que le dimanche matin, nous brillons, hein? C'est beau de voir comment que nous sommes dans la joie d'être ensemble, de louer le nom du Seigneur, d'exprimer à travers nos prières, notre reconnaissance vers le Seigneur. Mais le dimanche après le culte, on repart dans nos maisons, dans nos occupations. Et le lundi, généralement jusqu'au samedi ou jusqu'au vendredi, on travaille ou on va à l'école, aux études. On a tellement de choses à faire, de soucis à régler que l'Église passe après. Et rappelez-nous que l'Église, c'est chacun de nous. Oui, c'est vrai que le pasteur, les membres du comité officiel, les leaders peuvent aider à faire avancer l'Église. Mais chaque membre et ami de l'Église le font aussi. C'est qui dirige l'Église? Les ados, vous savez? Qui dirige l'Église? Hein? Le pasteur? Oui, c'est vrai. Mais qui d'autre, généralement? Les adultes? Le comité? Oui, ça c'est vrai. Mais en général, qui est le plus grand, le chef ou le patron de l'Église? Hein? Dieu ou Jésus, c'est vrai. Mais Jésus, il n'est pas là aujourd'hui. Hein? Physiquement, il n'est pas là. Alors, c'est qui dirige à la place de Jésus? Les adultes, vous savez? C'est le Saint-Esprit. Ben oui, le Saint-Esprit est là en nous pour diriger. Donc, il fait les choses selon ce que Jésus fait, selon ce que Dieu, ils sont dans la Trinité. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous et qui nous permet d'agir selon les paroles de Jésus, selon la volonté de Dieu. Lorsque j'ai reçu cette phrase au début de l'année par rapport au temps de jeûne et prière, que notre lumière brille, j'ai pas réalisé tout de suite l'impact de cette phrase pour nous. Je sais depuis très longtemps que nous devons briller pour le Seigneur, que nous sommes la lumière du monde, que nous devons être des témoins de cette lumière, afin que les hommes voient les bonnes œuvres de l'Église et glorifient Dieu. Mais durant cette semaine de jeûne et prière, très rapidement, le mot ou la phrase qui m'est venue pour l'Église, c'est de briller plus à l'extérieur, d'être cette lumière du monde. Samedi, justement, lors de la dernière rencontre, il y a eu plusieurs personnes, des réflexions que nous devons briller beaucoup plus de cette lumière. Déjà en nous, qui doit chasser les ténèbres, chasser ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais aussi que cette lumière brille aussi autour de nous. Nous avons dit aussi, des personnes ont dit que oui, cette lumière brille le dimanche matin, mais que cette lumière a tendance à rester dans le bâtiment. Les gens à l'extérieur ne voient pas que cette lumière brille. Ce matin, j'aimerais vous donner une partie de la réponse. Puis la réponse, elle ne vient pas de moi, ni de mes idées, ni de nos stratégies, mais elle vient de Dieu, puis de la parole de Dieu. Vous savez que depuis un certain temps, je suis en mentorat avec Church Renewal, c'est-à-dire temps pour être renouvelé dans notre esprit, renouveler aussi l'Église. Dans ces dernières semaines, le thème discuté de réflexion était sur le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Comment que Jésus a vécu une vie dépendante du Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? J'ai lu donc, à chaque semaine, nous avons un temps d'étude. Et lorsque je l'ai lu, normalement, c'était l'étude qui était pour le mois de décembre. Mais malheureusement, à cause de mes obligations professionnelles, je n'ai pas pu suivre cette leçon avec les autres pasteurs. Et c'est seulement au début de l'année que j'ai lu justement cette leçon. Et je remercie le Seigneur parce que je vois qu'il n'y a pas, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu permet les choses, les circonstances pour nous faire comprendre quelque chose. Peut-être que si je l'aurais lu au mois de décembre, j'aurais été touché, je crois, mais pas forcément la même chose que peut-être actuellement. Lorsque je suis arrivé à la leçon, puis j'arrivais sur la section qui s'appelle le remplissage et la recharge de l'Esprit-Saint. Le pasteur Ray, donc celui qui a écrit le cours, ne parle pas ici d'une expérience d'être rempli du Saint-Esprit, comme on voit peut-être dans des cas particuliers, comme on l'entend dans les milieux pentecôtistes ou charismatiques, il faut être rempli, c'est comme une onction qu'on cherche d'être rempli du Saint-Esprit. Mais il parle de moments où il a ressenti une touche spéciale venant du Saint-Esprit, qui lui a permis d'avancer plus loin dans sa vie, dans le ministère que Dieu lui avait confié. Et il parle de cet exemple de la voile d'un bateau, comme le Saint-Esprit qui souffle sur cette voile et qui dirige le bateau, que le bateau arrive, que avance. Hein? Imaginez, vous êtes un bateau avec une voile au milieu d'un lac ou de la mer. S'il n'y a pas de vent, vous ne pouvez pas, je veux dire, le bateau n'avance pas. Mais lorsqu'il y a le vent, vous mettez les voiles en direction du vent pour que le vent passe à travers la voile, puisse faire avancer le bateau. Et il parlait que justement, que le Saint-Esprit a l'importance de souffler sur notre voile pour nous diriger sur le chemin de Dieu. Alors, la voile, elle est gonflée le dimanche matin, dans le sens qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on loue le Seigneur, on prie, et c'est très bon. Mais souvent, du lundi au vendredi, au samedi, le souffle du Saint-Esprit n'est pas vraiment présent. Et lorsque je lisais cet exemple de la voile, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai compris une partie de nos difficultés à briller dans ce monde. Donc, le pasteur Ray énumère 15 points de comment être rempli de l'esprit. Comment briller de l'esprit de Dieu. On aura l'occasion dans ces prochains dimanches de voir quelques-uns de ces points. Mais quand je suis arrivé au 15e point, qui était être rempli de l'esprit est nécessaire afin de retrouver la plénitude perdue à cause du péché. C'est là que j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose, justement, dans notre bateau, d'avoir le souffle du Saint-Esprit. Nous savons que le péché habite en nous. Nous savons que ce péché nous sépare de notre Créateur. Regardez dans le texte qui est sur l'écran. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Rappelez-vous que ce chapitre 59 suit, c'est sûr, le chapitre 58. Ésaïe 58, nous l'avons étudié, décortiqué l'année passée, de comment de vraiment être, de pouvoir agir devant Dieu dans le véritable jeûne. Et Ésaïe, dans le chapitre suivant, va dire, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné de loin de vous pour ne plus vous entendre. Donc nous savons que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous nous sommes convertis, lorsqu'on a accepté de lâcher prise de notre vie, de mettre notre vie dans les mains de Dieu, de demander sa grâce, son pardon pour nos péchés, de reconnaître que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient en nous. Le psaume 51, verset 11 dit, ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Si nous regardons ce psaume 51, c'est David qui l'écrit suite au péché qu'il a eu avec Bathsheba. Rappelez-vous qu'il était sur le toit de sa maison et il a vu une belle femme se baigner pas très loin et il a eu des désirs pour elle et il l'a fait venir. Et cette femme était déjà mariée. Et on sait comment tout ce qu'il a fait pour pouvoir éloigner son mari, même le tuer, pour qu'elle puisse devenir sa femme, parce qu'il s'est rendu compte du péché qu'il avait fait. Et lorsque le prophète Nathan vient vers lui pour le raconter, lui dire, voici ce qui se passe, David va écrire ce psaume 51. Et on le voit dans le verset 10, le psaume 51, verset 10, un verset que nous donnons souvent. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. David s'est rendu compte de son péché, de son adultère qu'il avait fait. Et là, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Il savait que David, que l'Esprit Saint était en lui, parce qu'il a été guidé, parce qu'il a été mandaté en tant que roi. Mais là, à cause du péché, il sait que l'Esprit Saint s'est retiré de lui. Donc nous voyons que le péché brise quelque chose entre nous et le Saint-Esprit. Même si la présence de Dieu est en nous, est encore là, mais pas aussi présente peut-être. Alors regardons justement trois points principaux. Comment que nous pouvons pécher contre le Saint-Esprit? Comment est-ce que nous pouvons agir où l'Esprit de Dieu ne peut plus rien faire en nous? Le premier point, on va donner plusieurs points, plusieurs textes bibliques. Donc peut-être derrière, il y a des feuilles. Je vous encourage à écrire les différents versets bibliques, peut-être si jamais tu veux les distribuer. Parce que c'est important. C'est important. On va voir à travers la parole de Dieu comment que justement on a besoin de se tenir devant le Saint-Esprit et comment que la parole est la vérité et comment on a besoin d'agir selon lui. Donc le premier point, comment est-ce qu'on peut attrister l'Esprit? On dit que les Israélites ont attristé l'Esprit Saint en se rebellant contre lui. On le voit dans Ésaïe chapitre 63 verset 10. Cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi, il a lui-même combattu contre eux. On va regarder un peu plus en détail ce verset un peu plus tard. Mais on voit déjà que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit travaillait, peut-être pas forcément d'une façon complète, c'est-à-dire que les gens étaient toujours remplis de l'Esprit de Dieu. Il venait dans des cas spécifiques, il venait sur des personnes. Il venait pour des circonstances spécifiques. Mais là, on voit que Ésaïe va lui dire, ils ont attristé ton Esprit Saint. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, à travers le sang de Jésus-Christ, on sait que le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Mais regardez ce qu'il a dit justement dans le Nouveau Testament par rapport au Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, versets 30, 31. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais il est attristé par nos agissements qui sont cités dans le verset 31. Est-ce que ces versets, ces exemples dans ces versets 31, nous ne les vivons pas parmi nous? Hein? Fureur, colère, éclat de voix, calomnie, forme de méchanceté. Est-ce qu'on ne le vit pas dans nos familles, avec des personnes autour de nous, dans l'église, au travail? Le Saint-Esprit est attristé parce qu'il sait que nous perdons la communion avec lui et toutes les bénédictions qui en découlent lorsque justement on fait des choses qui ne sont pas selon lui. Comme aussi nous savons que lorsque nous avons offensé un ami, ça la rend la communion avec lui, ça rend plus difficile la relation avec lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est éteindre l'esprit. Donc, peut-être que la première, justement, d'attrister l'esprit, on l'a fait peut-être par ignorance. On l'a fait parce que des fois, peut-être, bon, la colère était là, parce que sans vouloir peut-être le faire, on a blessé des gens, on n'a pas pu vraiment se contrôler. Des fois, il y a des propos qui nous échappent. Hein, notre langue va plus vite que des fois nos pensées. Mais dans ce deuxième point d'éteindre l'esprit, on voit que c'est d'un point de vue intentionnel et pécheur. Regardez, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 22. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, si, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Dans ce cas, il est clair que Paul dit que d'une façon d'éteindre ou d'étouffer l'esprit est de traiter les prophéties avec mépris. C'est vrai que la plupart des prophéties ont été écrites avant le Nouveau Testament. Mais ces prophéties sont encore d'actualité pour nous. Donc, que sont ces prophéties? Ce sont des communications de Dieu à nous par son esprit. Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour communiquer un message, souvent d'avertissement. Faites attention, si vous continuez de pécher, voici les conséquences. Ou pour donner une directive, ou pour donner la volonté de Dieu. Mais souvent, nous les traitons avec mépris. Nous sommes coupables d'éteindre l'esprit de Dieu. Alors, que signifie traiter une prophétie avec mépris? Ça signifie que soit par un mépris conscient, soit par une négligence, nous mettons de côté les messages que Dieu nous adresse par son esprit, en faveur peut-être de notre propre sagesse humaine, de nos idées, de nos plans. Donc, au lieu d'écouter les prophéties que nous retrouvons dans la parole de Dieu, on écoute notre propre voix. On écoute des personnes sur Internet. On écoute les messages qu'on envoie autour de nous. Dieu a des mots très durs pour ceux qui le traitent de cette manière. Regardez Ésaïe chapitre 30, verset 1. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en le tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances, qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Dieu avait dit à son peuple de ne pas traiter des alliances avec d'autres peuples sans consulter la direction de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il prenait des alliances, c'est-à-dire s'il collaborait avec ces peuples, ces peuples allaient les détourner de l'Éternel. Parce que ces peuples adoraient d'autres dieux. Et lorsqu'ils étaient ensemble, ben, ils encourageaient les Israélites à chercher d'autres dieux, Baal, etc. Jérémie, chapitre 10, verset 21. Il est dit, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Nous voyons dans ce verset le fait qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Les conséquences sont graves. Donc ces deux versets sont un exemple de prophétie pour nous, d'avertissement, de ne pas faire comme ces enfants rebelles, comme ces bergers. Donc le pasteur Ray dit qu'en comparaison avec les péchés qui attristent l'esprit, éteindre l'esprit par le mépris des prophéties, des fois sont plutôt banales ou même acceptées dans nos milieux chrétiens. Parce qu'on voit que dans nos églises, elles sont remplies de défis, de tensions, de calomnies contre les membres, des agissements par les leaders ou les pasteurs qui ne reflètent pas ce que Dieu dit par les prophètes. Mais nous connaissons les prophéties, mais malgré cela, on agit contrairement. On agit pour notre bien, pour détruire l'autre. L'orgueil est la racine diabolique, justement, des deux, et l'éloignement de l'esprit, avec les bénédictions qui l'accompagnent. Si nous sommes gênés par la lumière du Saint-Esprit qui est venu éclairer notre cœur, si nous pensons que nous n'avons pas vraiment besoin du Saint-Esprit, si on préfère suivre notre propre volonté, le Saint-Esprit va s'abstenir d'œuvrer de façon surnaturelle dans nos vies. Et le pasteur Ray le dit ou le souligne aussi du côté de l'Église. Il a dit qu'une façon d'éteindre l'esprit est lorsque le Saint-Esprit veut amener l'Église dans une direction particulière, à laquelle nous ne sentons pas prêts à l'aise. Est-ce que c'est le cas pour notre Église aujourd'hui? Est-ce que c'est possible qu'en l'année 2025, que Dieu nous a montré par l'Esprit des choses dans notre Église, nous a révélé à travers l'étude de Ésaïe 58, à travers l'étude aussi de Néhémie, comment est-ce que nous devons nous comporter, qu'est-ce que nous devons faire pour une Église selon le cœur de Dieu? Mais que nous n'avons pas écouté, nous n'avons peut-être préféré de continuer comme avant. Est-ce que c'est possible que nos attitudes, nos façons d'adorer Dieu, comme le peuple d'Israël, ne soient pas selon la volonté de Dieu? Voilà pourquoi on doit faire très attention de ne pas attrister le Saint-Esprit par nos comportements et nos péchés. Mais nous devons faire encore plus attention d'éteindre le Saint-Esprit en ne faisant pas attention à ce qu'il veut nous dire à travers les prophéties, à travers la parole de Dieu. Et il y a une troisième chose encore plus grave par rapport au Saint-Esprit, c'est de résister à l'Esprit. Les Écritures parlent également d'une désobéissance plus profonde et endurcie qui entraîne un jugement sévère. On le voit dans l'Ancien Testament que lorsque les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu, les conséquences que ça a amené à ce que le Saint-Esprit se retourne contre eux. Relisons le texte qu'on a regardé tout à l'heure. Ésaïe chapitre 63, verset 10, il dit... Cependant, ils se sont révoltés, donc le peuple d'Israël se sont révoltés. Ils ont attristé son Esprit Saint de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. Imaginez, le Saint-Esprit était là normalement pour apporter la grâce, pour apporter la direction de Dieu, mais à cause de leur désobéissance régulière, à cause de leur mépris des prophéties, de suivre les principes de Dieu, le Saint-Esprit s'est retourné pour les amener encore plus dans la désobéissance, pour combattre contre eux. C'est un impact fort, ce que Dieu dit dans ce texte. Dans le Nouveau Testament, on a un récit d'un moment où Jésus vient de guérir un homme aveugle qui est muet, qui est possédé par le démon. Les foules sont vraiment stupéfaites devant ce miracle. Et ils se posent la question si Jésus était vraiment s'il pourrait être le fils de Dieu, le fils de David promis. Mais lorsque les pharisiens entendent un peu ce que la foule dit, ils sont jaloux et ils déclarent que Jésus avait exorcisé les démons de l'homme par le pouvoir de Bézubel, le prince des démons. Et on voit comment que Jésus va répondre. Dans Matthieu chapitre 12, verset 26, il dit, si Satan chasse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Puis Jésus termine sa réfutation par un avertissement sévère. Donc, ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 12, verset 31-32. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, c'est quoi le blasphème contre l'Esprit? Qu'est-ce que veut dire ce bout de phrase? Le blasphème contre l'Esprit Saint est une résistance persistante, impénitente contre l'œuvre de l'Esprit Saint et son message concernant Jésus. C'est de continuer malgré les avertissements, malgré ce qu'on sait que le Saint-Esprit est en nous, de continuer de résister à lui, de continuer de l'éteindre. C'est comme il dit, vous savez quel est le vrai chemin, mais vous continuez dans le mal, dans le péché. Donc, vous ne serez pas pardonné parce que vous péchez volontairement, vous ne voulez pas changer. La personne qui endurcit constamment son cœur contre l'œuvre du Saint-Esprit, qui lui-même se convainc de continuer de pécher, comme on a dit, du besoin d'avoir un sauveur, cette personne est hors de portée de la provision de Dieu pour le pardon et le salut. Prochain dia, on voit encore un autre exemple dans les Actes, lorsque Étienne, rappelez-vous, accuse des chefs religieux de résister au message de l'Évangile. Étienne, qui était un des diacres, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui à un moment donné tellement qu'il est rempli que les foules voulaient le lapider. Et dans Actes chapitre 7, verset 51, dit, homme au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc Étienne, par la présence du Saint-Esprit, va leur dire qu'ils s'opposent au Saint-Esprit, comme les pères d'Israël l'ont fait aussi. De telles personnes sont placées hors des portées de la miséricorde de Dieu et outrage d'esprit. Alors, les chrétiens peuvent aussi persister dans la rébellion, résister à l'intention de l'Esprit de nous amener à repentance et nous annihiler sur lui. Nous pouvons aussi également résister à son œuvre lorsqu'il parle à travers d'autres personnes de notre vie. Par exemple, lorsqu'elle nous enseigne que quelque chose ne va pas dans notre vie, ou nous apporte une parole corrective. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit dans Hébreux chapitre 10, versets 26-27, qui dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voici justement le blasphème contre l'Esprit Saint. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ces prophéties, ces avertissements sont clairs et ces paroles sont dures, mais c'est la vérité de Dieu et nous avons besoin d'en tenir compte aujourd'hui si nous voulons réellement marcher dans l'Esprit de Dieu, si nous voulons suivre la volonté de Dieu. Alors, prochain dia, est-ce que c'est possible que nous résistons à l'Esprit de Dieu et que nous ne laissons pas faire son œuvre en nous? Est-ce que c'est possible que nous l'avons vu avec les exemples d'Ésaïe 58, que des fois nous venons devant Dieu pour l'adorer et recevoir des instructions, mais que nous agissons avec méchanceté, dureté envers les autres, comme le peuple le faisait dans l'exemple d'Ésaïe 58? Ce matin, est-ce que c'est possible que notre Église, et donc chacun de nous, ayons perdu ce souffle du Saint-Esprit sur notre voile pour nous faire avancer dans la direction de Dieu? Est-ce que c'est possible que nous avons attristé l'Esprit par nos comportements, par nos péchés? Est-ce que c'est possible que nous avons éteint l'Esprit parce que nous ne prenons pas garde aux avertissements des prophéties qui sont révélées dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est possible que nous résistons à l'Esprit par notre rébellion, notre façon de vivre qui met l'Esprit de Dieu de côté? Donc, si nous désirons réellement briller de la lumière de Dieu, premièrement dans notre vie, nous devons faire une plus grande place au travail du Saint-Esprit en nous. Que cette lumière de Dieu qui brille enlève toute trace de péché, d'agissement, d'orgueil qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais cette lumière qui brille en nous doit aussi briller autour de nous, afin que les personnes puissent reconnaître que c'est Dieu qui agit et qui puisse glorifier Dieu. L'état de santé de notre Église, ce n'est pas juste quelques points à améliorer. Ce n'est pas de faire peut-être une nouvelle stratégie, des nouvelles idées. Oui, ça peut nous aider, mais c'est surtout lorsque le Saint-Esprit agit en nous. Quand le Saint-Esprit nous transforme, nous pousse à être cette lumière vers les hommes autour de nous. Le Saint-Esprit est une puissance. Il nous a transformés, il peut transformer aussi des hommes et des femmes autour de nous. Voilà pourquoi que nous devons aussi briller à l'extérieur. Nous ne devons pas briller juste le dimanche, mais du lundi au samedi, là où Dieu nous place, nous devons briller. Les gens doivent voir que le Saint-Esprit travaille en nous. Je crois que Dieu veut que cette puissance de l'Esprit de Dieu nous change, change l'Église. Nous voyons tout autour de nous comment que Dieu agit. On entend de plus en plus à travers le monde des places où l'Église grandit, où il y a des choses qui changent. On le voit par exemple parmi les jeunes. En Angleterre, il y a un réveil extraordinaire. Il est dit qu'ils n'ont jamais autant vendu de Bibles que que maintenant. Les gens ont soif parce qu'ils ont essayé de chercher partout. Ils n'ont pas trouvé la lumière. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, parler de Dieu dans leur famille, à l'école ou ailleurs, sont jamais pénétrés dans une église, cherchent à travers la parole de Dieu, une réponse. Sont touchés par la puissance du Saint-Esprit. Alors, est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, on veut prier pour briller de cette lumière? Parce qu'il y a encore des hommes et des femmes autour de nous qui cherchent dans toutes sortes de situations, qui sont bouleversés par ce qui se passe autour de nous, qui sont craintifs devant tout ce qui se passe. Les bruits de guerre, les changements, l'ordre mondial qui est en train d'être bouleversé. Nous avons besoin en 2026 que l'Église brille plus, que le Saint-Esprit brille réellement en nous. Nous allons prendre un chant que nous connaissons. Viens, Saint-Esprit, viens, et réfléchissons à ces paroles et laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous, de nous convaincre peut-être de certaines choses que nous manquons, peut-être de certaines choses dans nos vies qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça peut être d'un péché récurrent, ça peut être quelque chose que on laisse peut-être plus de place qu'à Dieu. Peut-être quelque chose que Dieu vous a montré, que Dieu vous a dit, mais que vous avez peut-être laissé de côté. Peut-être que vous avez ignoré cette voix de l'Esprit. Les paroles de ce chant disent: Viens, Esprit Saint, de ta lumière envahis-nous. Sois le feu qui nous guérit, sois l'amour qui nous bénit. Voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse. Même au milieu de nos faiblesses, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur d'annoncer ta parole. Je n'ai plus peur d'être un témoin de toi, de briller de ta lumière. Une pluie de guérison, une pluie de guérison pour notre génération. Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer. Dieu veut commencer par nous et Dieu va le faire encore. Alors restons dans cet esprit. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Il a commencé déjà aujourd'hui. Il peut encore le faire. Vous pouvez noter peut-être des choses pour vous. Vous pouvez noter peut-être des choses pour l'Église. Pour voir, dire: Seigneur, nous ne voulons plus t'attrister. Nous ne voulons plus être éloignés de toi. Nous voulons plus résister à ton esprit. Nous voulons rester en toi pour que tu puisses nous éclairer, que tu puisses venir nous délivrer, nous donner cette puissance Parce que Dieu est un Dieu puissant. Il veut changer, il a changé nos cœurs, il veut continuer de changer nos vies et il veut le changer aussi autour de nous. Alors restons dans cet esprit de prière. Laissons le Saint-Esprit nous parler, nous diriger. Le Saint-Esprit vient. Viens nous réveiller, Seigneur. Saint-Esprit qui est en nous, nous te remercions parce que tu es là jour après jour. Tu nous guides prenant ta parole à travers la volonté de Dieu pour avancer. Mais Seigneur, nous reconnaissons que souvent, ton souffle ne souffle pas dans nos voiles. Nous sommes comme arrêtés. Nous sommes dans la tristesse, nous sommes peut-être dans la faiblesse. Peut-être, Seigneur, aussi des fois, on t'attriste par nos comportements, par nos péchés. On ne veut même pas écouter, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Saint-Esprit, tu nous as fait réaliser encore aujourd'hui qu'on a besoin encore plus de toi. Nous savons que tu es là en nous, mais nous avons besoin de donner toute la place à toi. Pour que tu brilles encore plus, pour que ta puissance soit manifeste, Seigneur. Pour que le monde reconnaisse que toi seul, tu es Dieu. Que le monde reconnaisse que ce que nous faisons ne vient uniquement de toi. Que des signes, des miracles, des guérisons, comme on a chanté, puissent survenir. Saint-Esprit, déverse sur chacun de nous une onction supplémentaire afin que Seigneur, on puisse briller en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église. Que l'Église de Saint-Henri puisse rayonner de ta gloire. Pas juste à l'intérieur, mais à l'extérieur. Que le monde, Seigneur, soit attiré à venir dans cette lumière. Venir, soyez attiré, soyez touché par ta lumière qui brille. Alors, oui, Seigneur, c'est vrai que nous sommes faibles, nous sommes sans moyens, sans ressources, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes tes enfants, bien-aimés, que tu as rachetés, que tu nous as donné la vie. Merci. Merci d'être là avec nous et de continuer ce travail pour que nous puissions resplendir de ton nom autour de nous. Que ton Église rayonne dans cette année 2026. Que l'Esprit de Dieu rayonne dans nos vies à tout moment, à chaque instant, dans toutes circonstances, envers chaque personne que nous rencontrons, pour que ton nom seul soit glorifié. Que nos vies brillent de ta lumière. Nous te demandons ça, Seigneur, dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Garde-nous sous ton regard. Lorsque nous allons quitter cet endroit, que, Seigneur, cette lumière brille, continue de briller là où tu nous vas nous amener, dans nos occupations, dans nos familles, dans nos relations, dans notre travail. Que ta lumière continue de briller pour ta seule gloire. Oui, Seigneur, sois avec nous. Garde-nous sous ton regard. Bénis-nous, parce que tu es un Dieu grand. Est bon pour chacun. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.